Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la Mise au jeu podcast, un podcast 100% sportif. Aujourd'hui, on va parler de sport avec Younes Hassani, qui va s'en venir dans quelques minutes. Je voudrais remercier la gang de Air Visual pour notre intro. C'est du feu. Merci, les boys. Bonsoir, Younes.
Salut, mon Gap. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Yes, ça va très bien, merci.
J'aimerais parler en début de podcast de la pandémie chez le Canadien. Ça n'a aucun sens. Il y a des cas qui sortent chaque jour.
Ouais, c'est vraiment intense. On dirait à chaque jour, c'est comme quotidien. C'est rendu notre news quotidienne. Tout le temps, un nouveau joueur chez le Canadien. Là. Récemment, c'était Cameron Ellis puis Michael Pezzetta. On est pas mal rendu le CH, Rocket et Lyon de Trois-Rivières.
Ah, j'aimerais ça faire une parenthèse sur Cameron Ellis, justement. Ouais. Quel parcours inspirant. En début de saison, on se ramasse avec les Lyons. Ouais. C'est sûr que t'es pas content de te ramasser dans East Coast, là, on va s'entendre. Là.
Yes.
Puis finalement, se rendre en Ligue nationale. Puis, il a pas été si horrible que ça. C'est vraiment, vraiment cool pour lui.
Ah, ouais, vraiment. Écoute, c'est sûr, comme tu as dit, en plus, t'es une nouvelle ville, une nouvelle franchise, puis ça a commencé très, très lentement du côté de Trois-Rivières. Ça a pris du temps avant qu'on ait notre première victoire, puis c'est sûr, lui, il commençait sa carrière professionnelle, puis écoute, c'est sûr que ça n'a pas dû être facile. La pilule a dû être difficile à avaler, mais c'est la COVID a fait en sorte qu'il a pu jouer une game cette année dans la Ligue nationale. Un peu par défaut, j'aimerais bien dire, mais quand même, il a joué sa game, puis ce sera un highlight qu'il pourra garder jusqu'à la fin de ses jours, pour vrai.
Exactement. T'as-tu un coup de cœur en particulier sur cette vague de jeunes joueurs-là qui est arrivée chez le Canadien tout d'un coup?
Écoute, je pense qu'on va être unanime, toi puis moi, de ce côté-là. C'est vraiment Raphaël Harvey-Pinard. Écoute, quel gars impressionnant. Il est tellement persévérant, résilient. Il est déterminé. Écoute, il s'est fait repêcher en 7e ronde en 2019, à 20 ans. Sa troisième année d'éligibilité. Oh boy, j'ai eu de la misère avec ce mot-là, désolé. Mais ouais, sa troisième année où il pouvait se faire repêcher, puis écoute, il a totalement mérité sa place. Puis tant qu'à moi, j'aimerais vraiment qu'on le garde jusqu'à la fin de la saison. Même qu'il pourrait peut-être éventuellement jouer en avantage numérique, tu sais, un peu comme fait Mathieu Perrault, tu sais.
Exactement. Mais quand on parle de persévérance, Raph est un excellent exemple.
Ah ben oui.
Puis écoute, ouais. Quand tu parles d'un joueur qui connaît son hockey, qui a un bon sens de hockey, Raph en fait partie. Il est toujours à bonne place, toujours devant le filet. Puis tu ne peux pas demander plus à un joueur qui n'a pas les talents de Connor McDavid, mais qui va réussir à marquer par son effort, son deuxième effort. Il va jamais laisser tomber l'équipe. Puis il te faut des gars de même, surtout que il y a beaucoup de transactions qui circulent autour du Canadien en ce moment, là.
Ouais, c'est vrai. Écoute, puis juste à regarder son premier but, écoute, c'est vraiment un travail collectif sur ce but-là. Et je m'en souviens encore du vibe du moment. J'étais genre, ben voyons, il a vraiment marqué à sa première game. C'était pas mal quelque chose que je souhaitais vraiment. S'il y a un gars qui méritait vraiment d'avoir un but à sa première game, c'est vraiment Raphaël Harvey-Pinard qui ne cesse de m'impressionner. Écoute, je l'ai suivi un peu dans le junior, puis écoute, c'est un gars vraiment, il est bourré de talent, puis c'est vrai qu'il ne sera jamais un gars de premier ou deuxième trio, mais je pense qu'un gars de quatrième trio qui peut dépanner par moment sur la 3, un peu comme Mathieu Perrault il fait, je pense qu'il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Il est vraiment talentueux, puis très, très, très résilient.
Je ne suis pas le seul qui aime le mouvement, la fraîcheur qui s'en vient chez les Canadiens avec l'embauche de Chantal Maccabé, justement. Ah ouais. Je suis vraiment fier qu'on engage une femme à un poste aussi important. Je le sais, j'en ai parlé à Tristan. Gros shout-out à Tristan Mac. Il y en a beaucoup dans les bureaux, mais il en faut de la représentation dans les médias pour les femmes. Il en faut encore plus, c'est pas encore assez. Ouais, puis je suis content qu'on donne ce poste-là aussi prestigieux, aussi important à une femme comme Chantal Maccabé.
Ben oui, écoute, premièrement, si elle nous écoute ce soir, ce que je doute, mais pareil, félicitations Chantal, tu le mérites amplement. Puis écoute, mais ouais, c'est tellement inspirant. J'ai vu ça récemment, c'était la première personne engagée par RDS. Donc c'est pour dire qu'à quel point ils croyaient en elle. Puis Elle aime bien dire ça à Black, elle est arrivée à 24 ans et célibataire à RDS, puis que maintenant elle est rendue ma tante, c'est pour dire à quel point elle a eu un parcours vraiment inspirant. Puis on l'a vu hier, mettons, au 5 à 7, pour ceux qui l'ont vu, elle était au bord des larmes parce que ça lui a vraiment brisé le cœur de devoir partir d'une job qui la satisfaisait autant, puis qui représente une grosse partie de sa vie. Mais ouais, il n'y a pas une meilleure personne, une meilleure femme, mettons, pour avoir un poste aussi prestigieux, puis qui va avoir une plus grosse importance que lorsque c'était Paul Wilson. Parce que je ne sais pas si tu as vu, toi, Gab, mais ça va être beaucoup plus important qu'avec Paul Wilson. C'est vraiment, elle va parler pour n'importe qui, avec les anciens, le Rocket, la Fondation, avec le CH. T'sais, elle va donner les infos. Je pense qu'elle va être là pour lorsqu'il y a des interviews, elle va avoir vraiment un gros, gros rôle, puis c'est très, très demandant. On va se dire, c'est pas tout le monde qui va être capable, puis on s'entend que le Canadien, c'est l'équipe où il y a le plus d'achalandage, surtout cette année. Donc, ouais, ça va être une grosse, grosse job pour elle, puis je suis très, très content pour elle, puis tu as entièrement raison. Il faut plus de femmes dans le milieu.
Exactement. Puis on parle de parcours inspirant de Raph Pinard. C'est un peu la même chose du côté de Chantal. Combien de fois qu'elle s'est faite insulter par des hommes d'aller retourner faire la vaisselle? Puis ça peut juste la combler d'avoir un aussi gros rôle dans l'organisation du Canadien en ce moment. Je suis tellement fier du Canadien, fier d'elle également.
Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, même tout récemment, je pense qu'elle s'était fait insultée, puis pour dire à quel point elle a un background vraiment incroyable, puis elle se fait encore pas respecter par certains parce que c'est une femme. On s'entend, les femmes, c'est vrai qu'elles sont moins représentées que par les hommes, de par le fait que le hockey, c'était avant tout un sport d'hommes, mais les femmes sont, on l'a vu avec Chantal, elle a une culture et des connaissances incroyables, puis elle mérite amplement une chance de la sorte, puis comme tu as dit, je suis très, très content d'elle, puis je veux plus de femmes à l'avenir, puis je suis content que le Canadien ait fait ce move parce que il aurait pu dire non, je pense, j'aime pas trop la proximité qu'elle a en tant que journaliste et tout, mais ils sont sortis des sentiers battus comme Jeff Gordon et Jeff Molson y ont dit, puis moi je peux que applaudir cette sélection.
On parle du Canadien justement, il y a une lutte pour avoir le poste de directeur général. Ouais. Qui sont tes coups de cœur et pourquoi?
Écoute, pas le choix de dire que Mathieu Darche fait partie de mes coups de cœur. Pas nécessairement parce que c'est le meilleur, mais parce que le background qu'il a, écoute, il a fait des... De base, il voulait pas vraiment aller dans un poste de directeur adjoint, mais il a pu y arriver avec Julien Brisebois et le Lightning de Tampa Bay. Puis quoi de mieux que de vivre de tel moment avec un des meilleurs directeurs généraux depuis quelques années, puis en plus, ces deux premières années, ils gagnent la coupe. Des coups de COVID. On verra cette année s'ils vont avoir un 3 en 3, comme on peut dire. Puis, ouais, c'est ça. Donc, il fait clairement partie de mes coups de cœur. Puis, un autre, c'est pas non plus celui qui m'intéresse le plus, mais Patrick Roy, c'est vrai que...
On n'a pas le choix d'en parler de Patrick parce qu'il a envoyé un message clair à l'organisation en disant « Qu'est-ce que vous avez à perdre à m'essayer? »
C'était un peu ça, c'est carrément comme il est en train pas mal de dire ben go, je suis all in, je veux y aller, donnez-moi la job, j'ai une vision et tout. Puis honnêtement, si tu n'as pas compris le message que Patrick Roy essaie d'envoyer, c'est pas
mais ça, tu peux ça pas serait, faire plus que ça. Ouais. Ça serait une bonne chose en engager Patrick Roy, se réconcilier avec Patrick Roy surtout, parce que ça a été une figure extrêmement importante pour le CH, un des meilleurs gardiens de tous les temps. Tu peux pas penser à côté de Patrick Roy puis de l'enlever de ton organisation comme tu viens de faire.
Je pense que la moindre des choses, c'est de faire au moins une entrevue avec lui. Je pense que c'est juste la moindre des choses, parce que c'est quand même le deuxième gardien le plus victorieux de l'histoire avec 551 victoires. Puis il a quand même gagné deux coupes à Montréal, puis je pense qu'il n'y a personne qui peut se vanter récemment d'avoir gagné une coupe. En tout cas, dans notre vestiaire actuel, on a perdu beaucoup de leadership, tu sais, Dano, Perry, Stahl, Weber, Weber n'a pas gagné la coupe, mais c'est du leadership. Edmundson qui a gagné la coupe, Jake Allen qui est blessé, qui a la COVID et tout. On n'a pas beaucoup, on est une jeune équipe, puis on est rendu avec pas mal le Rocket et les Lions, et c'est ça, ouais, on a... Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se vanter d'avoir eu des Coupes Stanley. Puis on s'entend, c'était une autre époque, c'est totalement différent.
Oh, oui,
à ce moment-là, il y avait aussi les matchs nuls, donc tu sais, ça avantage tes stats.
On ne va pas comparer Wayne Gretzky avec Connor McDavid. Ça serait imbécile.
Ça serait juste ça. Un Wayne Gretzky, malheureusement, il y en aura juste un. Je ne pense pas, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il n'y a personne qui va s'approcher du record de points pour Wayne Gretzky.
On ne sait jamais. Je ne veux pas mettre les
pieds. Oui, c'est vrai. Mais je pense en ce moment, celui en termes de talent, celui qui est le plus proche, c'est quand même Connor McDavid. Mais il s'en rendra jamais, je pense. C'est malade.
Mais le hockey, la mentalité a tellement changé. Ouais. Je veux juste retourner sur les propos de Patrick Roy quand il a dit que ça fait depuis 1993 que cette équipe-là tourne en rond. Il n'y a pas tort. On passe depuis des années.
Écoute, tu as totalement raison. T'sais, on s'en parle beaucoup hors honte, toi puis moi, Gab. Puis c'est vrai, c'est pas mal beaucoup du patchage depuis quelques années. Mettons, l'an dernier, on est allé chercher Jake Allen, Josh Anderson, Tyler Toffoli, Joel Edmondson. Ça, c'est vraiment des coups, je dirais pas fumants, mais c'est quand même des gros coups. Puis on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Pour certains, je ne suis pas prêt à dire que c'est du patchage. Pour certains, je pense que c'était des joueurs qu'on ciblait depuis longtemps, comme par exemple Jake Allen. On s'entend que si Jake Allen n'est pas là cette année, on a 7 victoires, puis je pense qu'il y en a 5. On aura encore moins de victoires, mettons.
Il y a clairement un problème du côté du développement du Canadien. Ça n'a juste aucun sens que tu n'arrives pas à développer un joueur pour qu'il joue dans ton organisation. Tu regardes les choix de repêchage, des Jared Tenorti, des Nikita Sherbak, tu en as à profusion des flops.
On a regardé ça l'autre fois pendant une soirée. On s'est parlé, on a décortiqué tous les choix depuis 2010. Puis honnêtement, je ne veux pas y aller trop fort, mais ça faisait un peu pitié quand on regarde les dénouements de certains. Je ne veux pas parler pour les repêchages 2019 à 2021 parce que c'est encore trop tôt. Donc, c'est par rapport à 2018 et jusqu'à 2010. Mais oui, c'est ça. Il y a clairement un problème de développement. Puis, tu sais, toi et moi, on s'en parlait. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis. Tim Boson, Martin Riouet, tu sais, des gars comme ça. Même Maxime Lapierre qui a dit... qui s'était fait échanger le 31 décembre, alors qu'il était tellement content, qu'il avait hâte de retourner voir sa famille. Puis on lui avait manqué de respect en disant, on lui avait même pas dit où il a été échangé. Puis finalement, il a passé son réveillon dans une chambre d'hôtel tout seul en Floride, parce qu'ils étaient en Floride. Honnêtement, c'est un peu différent comme situation, mais c'est pour te dire à quel point il y a un changement qui doit se faire en termes de mentalité chez le Canadien.
Puis c'est pas normal que ton meilleur joueur soit des 10 derniers drafts, soit drafté en 5e ronde, puis c'est Brendan Gallagher.
Écoute, rien enlevé à Brendan Gallagher. Il nous a offert des fiers services. Il est vraiment déterminé, résilient, puis c'est un fouteux de marde, comme on peut dire. désolé du propos. Mais ouais, écoute, c'est pas normal. Écoute, puis 2010, il est rendu pratiquement à 30 ans. On s'entend à 30 ans. Puis surtout, vu le style de jeu, puis tu sais, peut-être qu'on va en parler plus tard de son contrat, puis des joueurs que peut-être qui risquent de partir, c'est pas vraiment glorieux. T'sais, un Cole Caulfield, on peut pas encore l'évaluer, c'est pas assez.
C'est trop tôt.
C'est trop tôt. Un Caden Gooley, pas encore. Logan Mailloux non plus. T'sais, tous les gars des trois derniers repêcheurs, même peut-être 2018, c'est très difficile de mettre un avis là-dessus. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de mentalité chez le Canadien.
Je vois qu'on a une question sur Facebook. Noémie Maheu, qu'est-ce que vous pensez de Connor Bedard?
Je sais pas pour toi, mais moi, il m'impressionne comme ça se peut pas. Si vous avez raté ça, on a des vidéos à vous montrer concernant ces deux derniers matchs, en tout cas les deux, le dernier de 2021 puis le premier de 2022. C'est incroyable, Gab. Deux matchs de 4 buts de suite. Puis dans deux ligues différentes, ça veut dire avec des joueurs différents, ils se démarquent, mais d'une façon incroyable.
Mais ce qui m'impressionne le plus là-dedans, c'est non seulement son talent, son lancer, mais il a seulement 16 ans.
Ah ouais, puis
juste un underager la WHL, puis il joue comme Connor McDavid.
Ouais, et c'est... Écoute, puis juste tantôt, j'étais sur mon téléphone, puis j'étais sur Insta, puis j'ai vu des highlights de lui à 14 ans. Je pense qu'il a fait un but à la crosse. C'est pour te dire à quel point ce gars-là vraiment a un hockey IQ puis des skills comme ça se peut pas.
Niveau hockey IQ, je suis pas vraiment sûr. Je trouve qu'il y a des skills, mais ouais, j'ai pas eu le temps d'analyser son jeu défensif à Connor Bedard.
Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est le côté défensif. J'ai l'impression que de son côté, peut-être ça va être quelque chose qu'il va négliger parce que je pense que ça va être un gars très offensif.
Très unidimensionnel.
Mais ouais, mais ben, le temps va peut-être me mentir, mais j'espère me tromper honnêtement parce que Connor Bedard, s'il peut donner un gars two-way, là, ça serait vraiment incroyable parce que.
Mais tu peux pas demander à des gars avec autant de talent d'être two-way en même temps. T'sais, est-ce que Austin Matthews est connu pour son jeu?
Non.
la patinoire, non, mais c'est un bon scoreur, c'est sûr.
Ouais, mais c'est ça, mais à un moment donné, il y a des gars. Des fois que, même si tu scores, des fois il y a des jeux, des revirements qui te reviennent te hanter. Tu te dis, ah, j'ai pas fait mon deuxième effort. On se souvient en série 2020, là, non, 2021, là où le Canadien est revenu de l'arrière dans une. Là où il perdait 3-1. On s'entend, Mathieu, tu sais, il faisait beaucoup de sourires et tout. Mais côté défensif, lui et Marner, je dirais plus Matthews même.
Matthews a plus de misère défensivement.
Ouais, non, c'est ça, mais Marner est. Je trouve qu'il est plus complet, mais c'est un vraiment très bon passeur. Il est plus défensif, mais Matthews, je pense que vraiment, tu sais, on l'a commencé à l'utiliser en désavantage numérique, mais c'est surtout parce que c'est le duo Matthews-Marner, parce qu'on utilise déjà.
Je pense plus qu'on le met en désavantage numérique parce qu'on n'a rien d'autre à mettre en désavantage numérique du côté de Maple Leaf.
Oui, c'est vrai, mais écoute, ils ont Mieyev, ils ont Jason Spezza. Écoute, c'est vrai que c'est pas non plus des gars.
J'aime que tu me nommes un gars dans fleur de l'âge pour dire « ils ont ça, tu sais, ils ont ça d'autre. »
Écoute, c'est un centre de quatrième trio, puis tu sais, j'aurais pas pu te dire un gars comme Wayne Simmonds, parce que Wayne Simmonds, non, c'est pas vraiment son style de jouer en désavantage numérique. Tu sais, lui, c'est plus un gars comme Corey Perry, tu sais, se met en avant pour voiler la vue du gardien, mais ouais, non, tu me dis aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, je pourrais pas te dire c'est qui les meilleurs éléments, à part Mieyev, puis peut-être Jason Spezza à jouer en désavantage numérique, et Marner.
Mais revenons sur cette fameuse finale de la Coupe Stanley du Canadien. On a vu des gars comme tu as mentionné tout à l'heure, le leadership qu'il y avait dans cette chambre-là. Tu vois que les gars étaient unis. Je vois qu'on est en train de perdre ça. Jeff Petrie, il n'a pas l'air de vouloir jouer depuis quelques matchs. Il ne se force plus. Il se fait contourner comme un con sur la patinoire.
Ouais, écoute, t'as totalement raison. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, Jeff Petrie était blessé depuis un moment, je pense depuis la fin octobre. Puis, honnêtement, je trouve que c'est encore. Tu sais, tantôt on parlait de transparence, puis Chantal qui va amener un autre côté. Ça va être un côté justement que ça va être plus exploité. T'sais, on a dit, ouais, Jeff Petrie, il y a quelque chose qui l'embarrasse, mais il est en mesure de jouer. Tu sais, je veux dire, si tu es en mesure de jouer. Après ça, attends-toi à te faire critiquer. Je veux dire, si tu es vraiment apte à jouer, il faut que tu essaies de contourner la douleur et tout. Mais si c'est trop pesant, sors de l'alignement, je veux dire.
Mais pas juste ça, c'est de blâmer l'entraîneur-chef.
Ouais. Oh, oui, ben écoute.
Par la suite, et ne pas performer.
Non, mais c'est ça. C'est que malheureusement, le match d'après, je me souviens plus c'était après quel match, mais le match d'après.
Je pense.
Écoute, je pourrais pas te dire, je me souviens plus trop, ça date un peu, mais le match d'après. De tous les joueurs, c'était pas mal Jeff Petrie qui était le moins bon. On voyait que, tu sais, quand il a dit ça, puis c'était pas la première fois qu'il faisait de tels propos, tu vois que lui, il passe pas des paroles aux actes. Je pourrais pas te dire si c'est parce qu'il a pas Edmundson, s'il a vu son rêve de gagner la Coupe être.
Si je vois un gars comme Anderson ou Gallagher parler comme ça de l'entraîneur-chef, je vais faire « Oh shit, il y a un problème.
Ouais, » Parce
que là, Petrie performe zéro, il a même pas le goût de jouer, puis il va critiquer le système de jeu de l'entraîneur.
Ouais, non, c'est ça, mais on s'entend aussi, il n'y a pas Edmundson, ça ne l'aide pas, mais Jeff Petrie, on s'entend que depuis son arrivée à Montréal, il y a eu beaucoup de partenaires de jeu, puis on s'entend que les deux qui lui correspondent, entre guillemets, c'est pas mal Yoel Edmundson et Brett Kulak. C'est pas mal les deux avec qui il y a une chimie, plus avec Edmundson, on s'entend.
Hey, t'as-tu un problème en défensive pour que tu me parles de Kulak?
Ben écoute, moi dans un sens, je peux faire mon avocat du diable, c'est bien pour Kulak que tu sois jumelé.
Mais Kulak, des derniers matchs était horrible. Tout
ça
était
horrible. Moi, non, c'est sûr, mais je parle de Kulak à son meilleur, là, tu sais, pas dans les derniers matchs.
Pas dessus le top 4.
Non. Lui, vraiment, c'est zéro dans le top 4. Là, dans une équipe comme Tampa Bay, c'est sixième ou sinon septième défenseur. On s'entend là-dessus. Ça demande un peu le manque de profondeur en défensive chez le Canadien.
En parlant de profondeur, on parle beaucoup de trade dans ce temps-ci.
Ouais.
Qui sont tes intouchables et pourquoi?
Ouais, écoute, je pense que c'est un peu déjà la réponse, mais pour ceux qui ne le savent pas, moi, pour vrai, je pense que c'est un peu de l'avis de tout le monde. C'est vraiment Cole Caulfield, Nick Suzuki, Romanov, Jake Evans.
Jake Evans va devenir un très bon joueur s'il arrête de jouer la tête dans le jackstrap. Il faut qu'il se lève la tête. Il faut qu'il arrête de regarder la rondelle quand il fait des feintes. Écoute, je suis un peu tanné de voir ça. Puis ouais. On peut pas... Mark Scheifele, ça, c'était complètement de la faute de Mark Scheifele.
Ouais.
Mais ouais. L'année d'avant, dans une série, s'était fait écraser dans la bande par Tanev.
Ouais, oui, je m'en souviens.
Puis
ouais.
Ça, c'est pas de la faute de Tanev. C'est vraiment de la faute Jake Evans qui joue la tête dans le jackstrap. Je vais le répéter, là.
Ouais, non, c'est ça, mais écoute, de toutes ces commotions depuis qui est dans la Ligue nationale, je pense que celle où tu peux moins lui imputer la faute, c'est vraiment celle où il est tombé mort raide à cause de Mike Scheifele.
Ben oui, il a pris un élan de 200 pieds, c'est écoute, normal.
Non, c'est ça, mais il y en a beaucoup qui critiquent Evans de, tu sais, comme quoi c'est de sa faute et tout. Je trouve ça un peu
méchant. Pas ce coup-là, mais les autres, oui.
Oui, les autres, écoute, Tanev, je m'en souviens, c'était sur la bande, puis il faut que tu regardes un peu. Mais écoute, on s'entend que je me souviens, puis tu te souviens encore, le but était déjà fait du côté d'Evans, puis Mark Scheifele, il aurait pu clairement freiner ou aller virer de bord, puis faire vers un virage. Mais non, il a voulu parce qu'il était frustré de sa game, il a été muselé par Price, par les attaquants du Canadien, puis je pense que ça a été le moyen de mettre sa frustration. Puis écoute, il a payé pour son geste, puis je veux pas dire que c'est un peu de sa faute si les Jets sont perdus, mais ça a enlevé du talent en s'il vous plaît.
Oui, mais je te parle de tes intouchables. Qui sont les premiers à partir selon toi?
Ah, écoute, moi, pour vrai, mon top 1, c'est vraiment Jeff Petrie. Écoute, Jeff Petrie, tu l'as dit un peu plus tôt, écoute, je pense vraiment que ça va au-delà du fait qu'il est blessé. Je pense vraiment que son body language, on l'a vu, je me souviens contre... les Golden Knights, le match où le Canadien s'est fait un peu battre sur les unités spéciales et en fin de match. Écoute, tu le vois, il est frustré par son jeu et par le jeu des autres, mais les autres, je trouve qu'ils font plus d'efforts, surtout dans les derniers matchs, puis on s'entend, c'est vraiment le club, c'est comme si on est en pré-saison en ce moment avec l'alignement qu'on a, mais Jeff Petrie fait zéro effort. C'est supposé être un vétéran. Il a quand même le A sur son charnel depuis quelques saisons.
Il ne mérite pas dans ce sens-là.
Non, c'est ça. Écoute, mais non, mais je suis un peu de ton avis, mais vraiment, si tu enlèves le A, c'est pas mal un signe qu'on va t'échanger. Puis, tu sais, je t'en faisais part l'autre fois, il y a une liste de 15 équipes où il doit dire « je ne veux pas être échangé ». 15 équipes, on s'entend. Si tu exclues le Canadien, ça veut dire que tu as 16 équipes où tu peux l'envoyer.
Faut que je parle de ces contrats horribles que Marc Bergevin a offert à ces gars-là. Pourquoi offrir un contrat à Jeff Petrie qui, selon moi, est un bon top 4 dans une bonne équipe, mais pas sur le duo principal de défenseurs? Pourquoi tu offres à Jeff Petrie une clause avec 15 équipes? C'est la moitié de la Ligue nationale.
Ouais, écoute, je pourrais pas dire parce que j'étais pas là lors des négociations, quoique j'aurais aimé être là. Mais ouais, écoute, on s'entend quand il a signé son contrat, il restait un an. C'était avant que la saison COVID commence. Puis il y avait encore Weber. Donc déjà là, il était prédestiné à jouer sur le deuxième duo. Donc c'est vraiment, comme tu as dit, c'est sa place dans l'alignement. C'est vraiment dans le top 4 et non dans le top 2. Puis, écoute, moi, je t'en ai souvent fait part en ronde. Pour moi, son contrat, ça va devenir un boulet à Jeff Petrie. Tu sais, 4 ans, on s'entend, il reste 7 ans. Après cette année, il va rester 3 ans. Moi, honnêtement, j'y aurais donné 3 ans. Je me souviens, à l'époque, j'étais très heureux parce que j'étais connu. On ne peut pas le perdre, ce gars-là. Ça va faire mal. Mais écoute, au final...
Mais sans Weber...
Non, c'est ça, mais on ne s'attendait pas à ce que Weber s'en aille. Puis, tu sais, je me remets dans... le vibe de l'époque, tu sais, en septembre 2020, lorsque son contrat a été signé.
On parlait de Norris.
Ouais, c'est ça. Hey, cette année, en 2021, c'était pas mal. Norris, oui, ouais, c'est ça. Il y avait une saison du tonnerre. Puis si la saison continuait, il pouvait clairement peut-être avoir 60 points, puis on s'entend 60 points. Le dernier qui a fait ça avec Montréal, c'est Piqué Subban.
Ah oui, en défensive, je pensais que tu parlais de 60 points. J'étais comme, le dernier qui a fait au-dessus de 60 points, c'est genre Max Domi.
Ah non, non, hein, non. Ben non, c'est Thomas Tatar.
Ah, c'est vrai. 68, c'est... quelque chose comme ça?
Ouais, non, 61. 61, ouais.
61. Ouais. Mais Max Domi a sa saison de 80 points.
Non, tu veux dire 72.
72?
Ouais, il y a eu 72, mais 80 minutes de pénalité. C'est sûrement ça que... Je pense que c'était vraiment un mirage. C'est vraiment, tu sais, des fois, tu as des départs qui... des fois, tu veux un changement de décor, puis tu performes à la hauteur des attentes. Puis après ça, tu as une baisse de régime. Puis c'est ça qu'on a vu avec Max Domi à l'époque.
Mais pour moi, Josh Henderson n'est pas un intouchable chez le Canadien. Un gars qui joue avec des œillères, qui va d'un bout à l'autre de la patinoire pour faire un lancer faible devant le filet. Je trouve pas que ça, c'est un intouchable. Il y a zéro sens de hockey, là.
Ah, écoute, non, mais t'as raison. C'est vrai que c'est pas non plus le gars qui a le plus de skill, mais en termes de, tu sais, gros gabarit, rapide et qui est capable de garder la rondelle puis s'emmener un peu en échappée en territoire offensif devant le gardien de but adverse. Il y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je le mets plus dans les intouchables parce que c'est un, comme il le disait Marc Bergevin à l'époque, c'est un style de joueur qui, malheureusement, est très rare à avoir. Et quand on a un, tu dois payer le prix. Puis tu voyais qu'il était prêt à payer le prix pour avoir
On parle de prix, là. Brendan Gallagher à 6 millions. Là.
6,5. Juste pour te faire sourciller. Ouais, 6,5. Ça te fait sourciller encore plus, hein?
Donner un contrat de 6,5 à un gars qui travaille devant le filet, puis c'est à peu près tout ce qu'il donne dans une game.
Ouais, non, c'est ça. C'est pas le plus talentueux. C'est vraiment, c'est un peu comme Raphaël Harvey Pinard.
Il patine comme Robocop, ça fait deux saisons.
Ouais, t'as entièrement raison. Ça va pas bien. Comme je t'ai dit l'autre fois,
j'ai l'air frustré à soir, ça n'a aucun sens.
Je te comprends. Écoute, moi, c'est un des joueurs que j'ai le plus apprécié depuis que je regarde le hockey à cause de sa résilience et tout. Puis j'aime souvent dire à la blague que moi, mettons, je joue au hockey ou avec mes amis ou whatever. Moi, j'aimerais avoir un style comme Brendan Gallagher, mettre devant le filet, achaler, faire des sourires, être baveux
et tout. Et être hypothéqué pour le reste de ta vie.
Non, mais c'est ça. Mais écoute, Gallagher, on s'entend. C'est clairement... c'est parce qu'il était très, très proche de Marc Bergevin. Puis on s'en souvient que Marc Bergevin était émotif quand il a annoncé la signature de Gallagher. Puis non, c'est clairement quelque chose qui va lui faire mal dans le futur.
Le contrat de Suzuki, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on l'a signé beaucoup trop tôt à 8 millions?
Non, parce que je trouve honnêtement que si tu as attendu la fin de la saison, tu avais un risque qui arrive... Une offre hostile comme dans le genre de Kéké. Puis on s'entend Kéké, 6,1 millions, je pense qu'on est tous indéniables, il ne mérite pas son salaire. Écoute, ceux qui disent que c'est pas encore une vengeance, que c'était pas une vengeance, vraiment, je ne sais pas quoi penser de vous, mais... j'avais pas suivi la saga AO, je pense.
Mais la saga AO, oui, c'est une chose, mais Kéké, ce que j'aime en ce moment, c'est son évolution, qui évolue sur la patinoire, il joue différemment. Il ne joue pas de la même façon que quand il joue avec Canadien. Puis ça, je suis content pour lui parce qu'il a l'air d'avoir un poids de moins sur les épaules. Ben, parce que jouer à Montréal, c'est pas fait pour tout le monde, on va s'entendre.
Non, c'est ça, mais on s'entend. Quand tu es dans une nouvelle équipe, tu dois t'adapter à un nouveau système de jeu, des nouveaux coéquipiers, un nouvel environnement.
Mais c'est très finlandais là-bas. C'est très finlandais.
Ils ont AO, ils ont Teuvo Teräväinen, ils ont eu Antti Ranta. Écoute, c'est sûr, ça Jesper Fast.
Ça aide énormément ton adaptation, c'est sûr.
C'est comme quand il est arrivé, tu sais, il y avait Lekkonen, il y avait Antti Niemi, il y avait
Armia.
Écoute, ça a pu l'aider dans son adaptation. Mais ouais, tu vois qu'il joue différemment, mais les points ne sont pas nécessairement là. Puis je le répète, 6,1, c'est beaucoup trop. Mais dans le cas de Suzuki, c'est le joueur que tu voulais le moins qu'il y ait une offre hostile. Entre Kéké et Suzuki, Mettons que, que Keke n'avait pas reçu son offre.
Mais tu trouves qu'une offre, qu'un joueur de deuxième trio à son prime, ça vaut 8 millions?
Écoute, je pense que dans le futur, il va mériter son salaire, puis ça va même être une aubaine.
Son contrat ressemble à celui d'Elias Pettersson.
C'est ça, mais Elias Pettersson, on s'entend, il a fait beaucoup plus de points dans le...
Exactement. Il est mieux entouré.
C'est ça, mais lui, il est mieux entouré. Donc, ça l'aide un peu, même s'il est capable de faire sa part de points tout seul. Mais Suzuki, je pense, dans le futur, il va être un très bon joueur. Je pense qu'il va mériter son salaire.
C'est sûr qu'éventuellement, il va valoir son salaire, sauf qu'en ce moment, je trouve...
Il est encore dans son contrat recrue, dis-toi ça.
Ouais, c'est l'année prochaine qui commence.
Ouais, c'est ça. Donc, tu sais...
Mais peut-être qu'il va commencer par l'entourer de jeunes joueurs, l'aider.
C'est ça. Nick Suzuki, c'est le joueur que tu voulais le moins qu'il reçoive une hostile. Puis je pense vraiment que, justement, l'histoire avec Keke, ça a changé les choses. Je pense que peut-être le Canadien voulait prendre son temps, mais je pense que dans le sens que peut-être qu'il voulait donner un contrat beaucoup plus tard dans la saison à Nick Suzuki, mais je pense dans ce sens-là.
Je pensais que tu avais dit qu'il avait été patient avec Keke.
Non. Je parle pour le contrat de Suzuki. Je pense vraiment que les Hurricanes ont accéléré le processus pour donner un nouveau contrat à Suzuki. Je pense pas que le plan de base, c'était le faire signer durant le camp d'entraînement. Je pense que c'est ça.
Non, c'est ça, parce qu'en ce moment, ça semble assez douteux comme contrat, là.
Ouais, c'est vrai, mais on s'entend que tout le monde joue mal, puis Suzuki n'est pas exempté, malheureusement. Il y a quand même un différentiel de moins 15. Il n'est pas mauvais, mais il joue à l'image de l'équipe. Ça lui fait mal, malheureusement. Mais je ne suis pas inquiet dans son cas. C'est vraiment... il est encore une fois le meilleur pointeur de son équipe. Il n'a pas perdu ses mains et tout. Il m'impressionne encore, tu sais, son but contre les Panthers sur un beau jeu de Jesse Yelonen. Il n'a pas perdu sa touche, mais c'est pas sa saison à lui non plus.
On parle de plus en plus de reconstruction chez le Canadien, puis selon moi, un des gars qu'il faut qu'il parte de l'équipe parce que c'est un poids sur la masse salariale et il joue une saison sur deux, c'est Carey Price. Carey Price doit avoir une Coupe Stanley à son actif. C'est tellement un bon gardien, Carey. J'aimerais qu'on l'échange aux Oilers parce que c'est l'équipe canadienne aussi.
Je suis pas du même avis pour être...
Tout dépend du retour. Tout dépend du retour.
Mais c'est ça, mais on va se le dire. On s'entend, les Oilers, oui, ils cherchent un gardien, mais je pense vraiment que ça leur prend beaucoup plus que ça.
Merci Lolo Hudon.
Les Oilers... Je ne suis pas trop d'accord parce que, tu sais, on s'en parlait un peu plus tôt. J'aime pas vraiment leur banque d'espoir. Vraiment, j'ai regardé un peu.
Des Xavier Bourgault, des Raph Lavoie, c'est tous des joueurs
Des Philippe Roberg, tu sais, c'est pas...
Evan Bouchard.
Evan Bouchard, je pense vraiment que les...
C'est un intouchable chez les Oilers.
Moi, je pense que c'est un intouchable, à moins qu'ils veulent l'échanger pour une offre impossible à refuser. Mais non, les Oilers, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse.
C'est où que t'aimerais l'échanger avec Carey? Exemple, on échange Carey Price.
C'est une bonne question, mais ça parle beaucoup du Kraken. Récemment, ça parlait du Kraken, alors qu'il était libre comme l'air.
Qu'est-ce qu'on va avoir en retour si on l'échange avec Kraken? C'est ça l'affaire.
C'est une bonne question. Il y a aussi l'Avalanche du Colorado. Pour vrai, moi, c'est vraiment peut-être l'équipe que je ciblerais, je t'explique.
On y a toujours parlé de Sam Girard, right?
Moi, Samuel Girard, m'a pas te le cacher. En 2016, ça m'a fait un peu chier qu'il se fasse pas repêcher par Canadien. On s'entend, le Canadien avait échangé ses deux choix, on le rappelle, pour Andrew Shaw. Et un de ses deux choix, on le rappelle, a donné qui?
Alex de Brinkett.
Qui ressemble étrangement à... qui a le même style de jeu puis la même taille que Cole Caulfield.
Je savais où tu t'en allais, je complétais les phrases.
Il n'y a pas de souci, mais c'est ça, écoute, moi, c'est vraiment l'Avalanche du Colorado, je pense, que je ciblerais parce qu'il leur faut un gardien. Darcy Kuemper ne fait pas assez bien le travail.
Avoir mis leur gardien au repêchage d'expansion.
Écoute, puis ils ont perdu Philippe Grubauer, on s'entend. Grubauer, c'était Je pense qu'il était dans les finalistes pour le trophée Vézina.
Yes, sir.
On s'entend, avant, il était dans l'ombre de Braden Holtby. Puis maintenant, c'est pas mal plus Grubauer qui est meilleur que Braden Holtby, on va se le dire.
Braden Holtby. Ouais.
Écoute,
c'est comme si tu me parles de Ben Bishop qui a pris sa retraite.
Non? Ouais, écoute, non, j'ai pas trop le goût de m'avancer vers là parce que.
Ils sont plus dans leur prime, ces gros-là.
Non, écoute, on va se le dire. Je pense que Braden Holtby a 31 ans. Carey Price en a 34. Pense... 31 ans, on s'entend, c'est pas énorme.
Penses-tu qu'il y a eu des fleurs à cause du. Talent offensif chez les Caps, Braden Holtby.
Écoute, c'est sûr, parce que l'année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, il a été horrible en saison régulière.
Il a été mais horrible. En série, il a été sexy.
Oui, ben c'est ça. Mais attends, si tu te souviens bien, qui a commencé les séries? C'était Philip Grubauer. Mais Grubauer, il n'a pas été bon, donc ils ont mis Braden Holtby.
Hey, c'est juste des bonnes décisions, ça, des Caps?
Ben écoute, comme je t'ai dit, je pense que ça frôlait le 3 de moyenne pour Braden Holtby. C'est justement depuis 2017-2018 qu'il est horrible. Ses stats sont vraiment désastreuses. Puis il est encore tout jeune, tu sais, 31 ans. Il n'est pas proche de la retraite. T'sais. Il est encore peut-être, dans le meilleur des mondes, il pourrait prendre sa retraite à 36-37 ans. T'sais. On voit Marc-André Fleury. Oui, il vient d'une autre époque, mais...
Mm-hmm. Mais Marc-André Fleury est nettement supérieur à Braden Holtby. Il y en a un qui a 500 victoires.
Écoute, ouais, puis justement, en parlant de ça, on devrait dire remercier Marc-André Fleury d'avoir continué sa carrière parce qu'il nous offre un plateau intéressant, 500 victoires refusées à Montréal.
Surtout avec la saga qu'il y a eu avec Las Vegas, agent qui a mis
Écoute, Alan Walsh puis Peter DeBoer, écoute, c'est pas l'amour fou, on va se le dire. Puis pour avoir été témoin un peu dans les séries, je peux te dire que c'était pas un beau fixe. Puis je pense vraiment que pour la carrière puis le respect que méritait Marc-André Fleury, il fallait l'échanger. Ce que j'ai moins aimé, je sais qu'il est un peu tard pour en parler. Puis j'en ai déjà parlé ailleurs, mais j'ai vraiment pas apprécié l'échange contre un joueur, un nobody, qui est même pas resté dans l'organisation, qui a été tout de suite libéré. Je pense que c'est vraiment un manque de respect. Puis surtout, on s'entend que Marc-André Fleury, il a vraiment hésité à aller à Chicago. Pas parce qu'il aime pas Chicago, c'est juste vraiment il voulait pas être échangé, puis pas nécessairement à cette place-là. Mais finalement, il a accepté. Puis, écoute, tu le vois, il s'ameute. Puis, ça a commencé très, très lentement. Puis, jusqu'ici, tu sais, il fait de son mieux. Mais les Blackhawks, non plus, c'est pas l'équipe de l'heure. C'est vraiment aussi une équipe en reconstruction.
Pas seulement en reconstruction et remplie de scandales aussi.
Oh, non, non, non. On va pas commencer à parler de ça. Écoute, non, non. C'est très bien mon avis par rapport à
ça. C'est horrible. Juste non, écoute, à dire, je ne vais pas aller plus profond dans ce sujet.
Non, 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 non. Écoute, l'histoire de Kyle Beach, c'est juste horrible. Puis je donne mes sympathies à tous ceux qui ont vécu ça, de près ou de loin, dans leur carrière. Même si vous n'avez pas encore parlé de ça à votre entourage ou que vous hésitez à en parler, moi, je vous soutiens vraiment à 100%. J'espère que ça va se régler sous peu parce que c'est des gestes totalement dégueulasses. Puis ce gars-là a eu son nom inscrit sur la Coupe Stanley, puis ça a terni l'image de l'équipe. Puis il a continué de faire ça avec des jeunes mineurs, avec, je pense, des gars de 14, 15, 16 ans, ça veut dire presque LHJMQ. Moi, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je vais m'emballer, Gab. Donc,
on va pas aller là parce que c'est pas la direction dans laquelle je veux m'en aller. Parlons du Canadien. Parlons du championnat mondial junior.
Ouais, écoute,
du peu qu'on a vu, tes coups de cœur.
Ouais, écoute, ben, pas le choix d'y aller avec Connor Bedard. Écoute, il était tellement impressionnant. Hein. On a des vidéos pour vous montrer c'est les quatre buts que Connor Bedard a marqué lors du seul match qui comptait dans le championnat mondial junior. C'était contre l'Autriche, une victoire de 11-2.
Ouais, contre l'Autriche.
Ben, c'est ça, ouais, on s'entend, l'Autriche, c'est pas très bien représenté. Le seul joueur que je pourrais te dire qui marque mon esprit, qui est un Autrichien, c'est vraiment Thomas Vanek, puis Vanek a pris sa retraite.
Regardez ça.
Écoutez, regardez les... Puis rappelez-vous, il y a juste 16 ans. Sur ce but-là, ça me fait un peu penser à Braden Point, pour être honnête avec toi, c'est la façon qu'il s'est placé, la façon qu'il a marqué, puis en plus les deux sont droitiers, ça me fait un peu penser à Braden Point. Non, vraiment, il a fait écarquiller des yeux, puis comme on l'a dit un peu plus tôt, il a juste 16 ans.
Ouais, c'est jamais une bonne idée de laisser Connor Bedard seul devant un filet, là.
C'est ça, écoute, regarde, ils étaient complètement, complètement à bout de souffle, puis écoute, regarde,
bonsoir, il est parti.
Oh oui, c'est ça, bonsoir, il est parti.
Quelle mauvaise glissade du gardien.
Oh ben oui, écoute, c'est
ben, il est pas connu. L'Autriche n'est pas connue en étant
une puissance
mondiale non plus. Là.
C'est ça, non, on s'entend, les grosses puissances, c'est vraiment Canada, États-Unis, Suède, Finlande et aussi la Russie. Mais sinon, à part ça, tu sais, l'Allemagne, non, ça peut créer des surprises, mais c'est pas tant. L'Autriche, sinon, il y a quoi? La Norvège, non, tu sais.
Mis à part Connor Bedard, moi, j'aimerais parler de mon joueur.
Ouais, c'est pour ça que je te l'essaye.
Matvei Michkov, un joueur petit gabarit, cependant, n'est pas très grand, mais des mains exceptionnelles, mesdames et messieurs. Il a tout un lancier. Il est en train de battre des records dans MHL. Puis maintenant, il joue dans la KHL avec des hommes à seulement 16 ans, lui aussi. Donc, son développement va
Moi, il s'accélère. Plus qu'un, là. Ben oui, écoute, moi, j'aime souvent le dire, puis toi, t'es au courant des faits, j'aime souvent dire que le repêchage 2023, ça va être vraiment style 2015, Connor McDavid et Jack Eichel, parce que ça va vraiment se batailler, ces deux-là, pour le premier...
Peut-être que c'est un peu trop tôt pour en parler, mais c'est vrai, pour moi, c'est deux gars à talent qui pourraient marquer une génération.
Mais par contre, comparé à, mettons, à cette année, je trouve que vraiment, c'est un peu par défaut qu'il y a Shane Wright, parce que je vois pas vraiment quelqu'un qui... Tu sais, on parle souvent de Mathieu Savoie, de Connor Geeky, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui pourrait surpasser Shane Wright, tandis que...
Logan Cooley aussi.
C'est ça, mais je pense vraiment que c'est déjà un peu coulé dans le béton que ça va être Shane Wright.
Ici, on a Marc-Antoine Matt. Ouais. Bedard a impressionné, mais moi, j'aimerais donner une mention à Owen Power. Il va dominer, ça, c'est sûr.
On a failli oublier ça. Hey, que dire, un tour du chapeau pour Owen Power...
Ça ne s'est jamais vu par un défenseur.
Ben oui, écoute, puis c'est incroyable. Écoute, tu m'aurais dit Owen Power, il y a un mois, va faire un tour de chapeau au Mondial Junior. Je t'aurais bien ri dans la face pour vrai parce que, écoute.
C'est pas un petit gars non plus. Non,
c'est ça, mais.
T6, il est grand, gros, mobile pour la grosseur qu'il a. C'est très impressionnant, sa mobilité pour vrai.
Oui, mais écoute, puis je pense qu'aussi le fait d'avoir. Décidé de rester dans la NCAA, la NCHC, ouais, ça s'appelle comme ça dorénavant, pour ceux qui ne le savent pas. Mais écoute, je pense que justement le fait de rester là-bas au lieu de commencer sa carrière dans la Ligue nationale, ça va l'aider. C'est un peu comme Cole Caulfield, tu sais, on s'entend, si tu avais amené Cole Caulfield dans la saison 2021, tu sais, dès le début, je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de succès. Quoique le début de saison, c'était assez impressionnant, on s'en rappelle. Mais non, je pense vraiment que pour le bien de son développement, c'était bien de rester aux États-Unis dans le programme de développement américain.
Ouais, mais c'est sûr que c'est pas bon de jouer avec le centre de Buffalo, qui n'est pas une très unie en ce moment. Donc, pour son développement, c'est vrai que c'est mieux de jouer dans la N.
Dans NCAA. Ouais, on va dire NCAA. Ouais. Écoute, puis on a un autre commentaire ici de Édouard Marcoux. Pouvez-vous me parler de Jonathan Drouin?
Écoute,
j'aimerais ça te laisser démarrer parce que je sais que...
J'en ai beaucoup sur le cœur à propos de Drouin. Hein.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je veux avoir ton avis en premier.
Je suis extrêmement fier de lui d'avoir passé cette période d'anxiété profonde-là. Je suis très fier de ça. Mais selon moi, Jonathan Drouin n'est pas un intouchable si on pense à une reconstruction. Car Jonathan, il y a de la misère encore avec... Il a pas l'air motivé sur la patinoire. C'est pas le gars qui va aller chercher le puck dans les coins. Puis ça commence à me titiller un peu. Là. Oui, il y a du talent, Drouin. Oui, il va te sortir une feinte sensationnelle à un moment donné. Mais il marque quoi, 15 buts maximum par saison?
Ben ouais, écoute, c'est vrai, je suis d'accord. Puis moi aussi, j'adhère à ce que tu as dit au début. Je suis très, très content qu'il ait pu s'en sortir de cette anxiété, du fait qu'il ne dormait pas beaucoup. Écoute, je pense que il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui font mention comme quoi ils niaisent par rapport au fait hey, t'as pas aidé ton équipe en finale et tout. Écoute, j'ai pas le goût de trop m'aborder. Devraient vraiment se retenir. T'sais, des fois, on aime ça dire se garder une petite gêne, puis ça, en ce moment-là, t'sais, derrière ton écran, en plus, sur Facebook, Instagram, qu'est-ce que tu veux?
Les gens qui disent ça n'ont jamais vécu une dépression. Ils n'ont jamais vécu de l'anxiété.
Écoute, c'est ça. Il y en a plusieurs qui parlent, mais qui n'ont jamais vécu, justement. Puis, tu sais, la même chose du côté de Carey Price. Écoute, Carey Price, j'ai vu beaucoup de commentaires au cours des derniers mois comme quoi, tu sais, c'est une fillette, que c'est quelqu'un qui essaie de se cacher, que tu sais, il s'est dopé pendant des années. Écoute, on ne peut pas accuser un joueur de s'avoir dopé sans avoir des preuves irréfutables. Puis selon moi, j'ai aucune preuve, j'ai aucune info à l'heure actuelle. Mais connaissant l'historique de Carey Price, ça serait zéro étonnant que ce soit une addiction aux antidouleurs. Puis on s'entend que c'est. Dans son cas, c'est très, très facile de penser à ça. Je suis zéro prêt à dire qu'il a pris des drogues, qu'il s'est dopé. Mais écoute, c'est ça. Je suis très content pour ces deux gars-là qui aient demandé de l'aide, autant pour Drouin que pour Price. Mais pour Drouin, pour vrai, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu penses à une reconstruction, tu veux des gars qui travaillent et tout. Mais...
Tu vas entourer tes jeunes joueurs de travail pour avoir une éthique de travail dans le futur. Tu veux pas des joueurs qui se pognent un peu le beigne.
Oui, mais c'est ça. Mais écoute, c'est vrai que tu veux pas ce genre de joueur, mais malheureusement, dans chaque équipe, tu as ça. Tu peux pas avoir des joueurs qui travaillent à chaque soir et tout.
T'sais, mais il y a pas assez de talent et pas assez de points dans les saisons pour se permettre de jouer de la sorte.
C'est ça, je suis entièrement d'accord. Mais écoute, si mettons, aujourd'hui, tu me dirais, tu gardes Mike Hoffman ou Jonathan Drouin? Désolé pour ceux que ça va frustrer, mais je prends Drouin. Pas parce qu'il est québécois, zéro. C'est juste, c'est un des joueurs que j'ai le plus apprécié qu'on soit allé chercher. On venait de perdre Radulov à l'époque. Puis, c'est vrai que quand tu fais une rétrospection de cette transaction, ça fait mal en s'il vous plaît. Oui, mais on prendrait bien un Mikhail Sergachev à Montréal.
Ah, on en prendrait des défenseurs.
Oui, c'est ça. Puis écoute, c'est sûr que ça nous fait mal, mais on va devoir vivre avec ça, malheureusement. T'sais, tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé. Il faut move on, comme on peut dire en anglais, puis vivre avec cette décision-là. Il reste 2 ans, 1 an après cette année. Puis écoute, moi, je serais de ceux qui est prêt à le garder. Écoute, il a juste 26 ans. Il va avoir 27 ans en mars. Puis écoute, c'est vrai que c'est pas le plus... le gars qui va travailler le plus, mais tu sais, Mike Hoffman, il a 31 ans, je crois. Tu sais, on s'entend, dans 3 ans, il a 34 ans. 34 ans, il y en a beaucoup qui prennent leur retraite à ce moment-là. Dans 3 ans, Drouin a 30 ans. Tu sais, il y en a qui sont... On voit André Kopitar qui a 34-35 ans puis qui est encore...
Ouais, on va comparer Drouin.
Non, vraiment pas. C'est juste pour faire un comparable. Comme quoi, il y a des joueurs qui, malgré leur... qu'ils soient dans la fleur de l'âge, comme tu disais tantôt, ils sont capables de bien performer. Puis je ne suis pas prêt à abandonner dans le cas de Drouin. Comme j'ai dit, moi, s'il y a un choix à faire, je prendrais Drouin all-in pour
venir. Ben, c'est sûr qu'entre Drouin et Hoffman, tu me donnes ce choix-là. Hoffman va te compter 30 buts, mais il va t'en coûter 150 dans
la ligue. Ouais, c'est ça.
Il va finir la saison avec moins 25, même si Canadien a une fiche victorieuse.
Non, c'est ça. Mais écoute, c'est je pense que Drouin mérite de rester. En tout cas, selon moi, je ne suis pas prêt à l'échanger parce que déjà que je pense que sa valeur est très basse. Donc, tu ne risques pas d'avoir un retour très avantageux. C'est des jeunes espoirs de qualité ou des espoirs B ou des choix très élevés. Donc, je pense que c'est mieux de le garder. Puis peut-être, s'il y a une bonne saison d'ici la fin de la saison, que l'an prochain, il y a une bonne saison, malgré le fait que je pense qu'on va être en reconstruction. Je suis prêt à le garder encore quelques années, mais...
T'as-tu vu le contrat d'essai professionnel de Tukarask avec Providence?
Ouais, j'ai vu ça tantôt. Écoute, je pense que c'est un secret de polichinelle, comme on peut dire. Je pense qu'il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaîne en sachant que Tukaras va rester avec les Bruins. Il était sans contrat, pour ceux qui ne le savent pas, depuis la fin de la saison passée. Il était blessé, puis ça disait qu'il allait revenir vers janvier, puis on est en janvier. Puis il va, un peu comme ce que Carey Price a fait l'an dernier, il va faire une sorte de remise en forme. Puis je pense qu'il va jouer peut-être un ou deux matchs avec Providence, ou jouer des moitiés de matchs, on verra. Mais ouais, je pense que le fait de revoir Tukaras pour les Bruins, ça va...
Mais ça va donner la confiance aux joueurs aussi.
C'est un gars qui est là depuis très, très, très longtemps. Puis, c'est un des piliers de l'équipe.
On a ici Edouard Marcoux qui nous demande « Vous en pensez quoi du trade de Mikhail Sergachev? »
Écoute, si tu voudrais que je te donne une note,
ça, c'est un gros soupir en passant. Ah, oh, mais pour vrai, Sergachev...
Je pense qu'on a un peu donné notre avis tantôt, mais si on peut un peu pousser la discussion un peu plus loin, mais oui, c'est vraiment difficile parce que je suis capable de me mettre dans le bain de l'époque. C'est sûr que plusieurs joueurs, plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, ils ont de la misère. Même moi, par moment, des fois, j'ai de la misère. Puis toi aussi, Gab, tu as de la misère à te souvenir du bain, de te rappeler du bain de l'époque. On avait un besoin, on venait de perdre Radulov, puis on s'entend, tu sais, ça se reposait l'attaque sur des gars comme Plekanec, Pacioretty, Gallagher, Galchenyuk, Lekkonen, alors qu'il venait d'avoir une saison de 18 buts. Tu sais, c'était pas glorieux à l'attaque, puis je pense que vraiment, on voulait absolument remplacer Radulov par un gars plus jeune, puis... Mais malheureusement, le hasard a fait qu'on a perdu Markov de manière un peu
floue. Hein, c'est encore flou ce ton-là. Hein?
Et je pense que vraiment Markov voulait 6 millions, mais je pense que le Canadien ne voulait pas lui donner 6 millions.
Moi, pour revenir à la question d'Edouard, pour moi, c'est imbécile d'échanger un défenseur que tu n'as même pas encore développé contre un gars qui est conscient de son problème d'attitude, qui ne veut même pas jouer dans AHL pour se développer. Je trouve ça insensé de la part du CH.
Mais écoute, c'est vrai que, vu de même, c'est vrai que c'est pas très glorieux. Mais pour revenir à ça, écoute, c'est sûr que quand tu regardes ça maintenant, en 2022, ça fait très mal, mais Marc Bergevin savait le prix qu'il devait payer, puis je pense vraiment qu'en ce moment, il doit se mordre les doigts, en plus qu'il est au chômage. Puis on s'entend que son amour pour Trevor Timmins, on en parlera tantôt, mais son amour pour Trevor Timmins, ça lui a coûté son poste malheureusement. Mais c'est ça, mais oui, ça fait très mal cette transaction-là, je suis un peu déçu. Mais comme ce que j'allais dire, c'est qu'on venait en plus de perdre Markov de manière très dégueulasse, on venait de perdre Yemelin à cause des Golden Knights. Et on venait d'échanger Beaulieu au Sabre de Buffalo. Donc, tu perdais tes trois défenseurs gauchers. On est allé après ça chercher des gars comme Mark Strait, Carl Armour. Écoute, cette saison-là était catastrophique. Je m'en souviens encore. Le début de saison, là, je ne sais pas si tu t'en souviens, le match de 4 buts de Alex Ovechkin contre le Canadien. Écoute, c'était la débandade comme ça se peut pas cette saison-là, mais écoute. Puis ouais, comme dit ici Marc-Antoine Matt, cette transaction ressemble drôlement à celle de Gomez.
Pour vrai, oui.
Écoute, oui, c'est vrai. Ça, c'est. En plus, c'est deux défenseurs gauchers qui ont été échangés contre contre un attaquant. Mais Gomez, à comparaison, était plus vieux. Je pense qu'il était plus que 30 ans.
Ah, il était à l'extérieur de son prime. Là. Il n'était plus le Gustave Gomez des belles années.
Non, c'est ça. Mais Jonathan Drouin, il a été acquis à 22 ans. Ouais, c'est comme un peu... Puis Radulov avait déjà 30 ans. On s'entend, c'était pour se rajeunir puis avoir un attaquant talentueux puis en plus faire un peu plaisir aux Québécois qui voulaient un Québécois. Mais c'est ça, ouais. Le dénouement ressemble drôlement à ça parce qu'au final, on se mord les doigts des années plus tard.
Ici, j'ai Lolo Hudon qui dit ouais. « Quels sont les sujets que vous abordez dans ce podcast? Le hockey en général, canadien, les Olympiques ou le hockey féminin? » Le hockey féminin, je m'y connais vraiment très peu.
Ouais,
les Olympiques, c'est sûr qu'on va en parler. Les Olympiques, c'est toujours le fun de suivre notre pays qui est à l'œuvre à l'étranger.
C'est sûr. On va suivre ça, hein, d'ailleurs.
Le Canadien, c'est... on l'a tatoué sur le cœur ici.
Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai ça. Mais
l'entrée féminine, j'ai essayé cette saison de beaucoup plus m'informer là-dessus. On connaît beaucoup de joueuses, mais on ne connaît pas encore la NWHL, c'est ça?
Oh, je pourrais pas te dire parce que. Mais écoute, concernant ça, moi je suis totalement d'accord avec toi. Je suis ton le fond de ta pensée. Moi aussi, j'ai le goût de vraiment m'intéresser un peu plus au hockey féminin. Parce qu'on l'a dit, on parlait tantôt de Chantal, du rôle des femmes et tout. Puis je pense que le hockey féminin n'est pas assez mis de l'avant. Puis j'aimerais justement en parler quelques instants. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment fait sortir de mes gonds. C'est un peu fort ce que je dis, mais...
Bon, qu'est-ce qui t'a fait sortir encore?
Écoute, avant que le championnat mondial junior commence, il y a eu des annulations de tournois qui allaient se dérouler vers fin janvier. Il y en a eu 6 annulés. Sur les 6 qu'il y avait, 4 étaient des féminins. Puis tu sais, on s'entend, c'était fin décembre, donc en un mois, ça peut changer. C'est même pas ont été... repoussé, a été annulé. Puis moi, je trouve ça scandaleux parce que je trouve vraiment que on a priorisé le mondial junior masculin. Justement, c'est ça, à cause que, du cash que ça allait faire. Puis regarde, au final, ça a duré un match puis c'était fini, tu sais, à cause que il y a eu les États-Unis qui ont eu des cas de COVID puis que ça a fait en sorte que le tournoi a été annulé. Mais moi, je trouve ça totalement désastreux qu'on ait fait ça aux femmes.
C'est scandaleux d'enlever un tournoi aux femmes, mais de 0 gars. Ben non, c'est correct. Hein?
Ben
vous autres, vous êtes meilleurs, vous êtes des hommes.
Ça démontre clairement pas juste chez le Canadien, dans le monde entier, il doit y avoir un changement de mentalité parce que les femmes, c'est vrai que le hockey va rester plus un sport d'hommes.
Dans le temps des Canadiens de Montréal, là.
Ah non, c'est ça.
Aller voir les femmes, ça ne coûtait rien. Yo, augmenter les prix des billets. Il faut que ces femmes-là aient de... Hey,
c'est... Marie-Philippe Poulin, des...
Il est arrivé à Montréal, personne n'en parlait. Mais Drouin qui fait un goal, on va le montrer à 40 reprises à Sportrend.
Non, mais écoute, c'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut vraiment les mettre plus en avant. Tu sais, une ancienne joueuse, tu sais, Caroline Ouellet, des Kim Saint-Pierre, des Marie-Philippe Poulin, il n'y en aura pas tout le temps.
Puis... Anne-Sophie Pété.
Ouais, c'est ça.
Name it. On a des bonnes femmes.
Oui, c'est ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis justement, c'est ça qui m'a fait un peu écarquiller les yeux. Puis ça m'a vraiment rendu très frustré puis très énervé. C'est que juste à cause de l'engouement, du fait que c'est plus... ça va plus te rapporter chez les hommes que chez les femmes, on annule ça, on ne fait même pas repousser, puis surtout à un mois, tu sais.
C'est inacceptable.
On est le 6 janvier, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer d'ici 20 jours, peut-être que ça va se calmer, que les règles vont baisser et tout, mais peut-être que je me trompe totalement puis que ça ne sera pas le cas. Mais de faire ça un mois à l'avance, puis de même pas repousser, c'est plate, puis surtout, j'ai entendu des histoires comme quoi le développement du championnat mondial junior masculin, ça a été fait d'une façon totalement désorganisée. Donc,
on l'a vu un peu.
C'est ça, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, mon gars.
Let's go, mon homme.
Ben, c'est ça, écoute. Moi, je trouve ça totalement désastreux. Puis, c'est ça. Moi, j'annonce que nous, le hockey féminin, ça va être peut-être pas notre priorité en ce moment, parce que, comme on a dit, on ne s'y connaît pas trop. Mais c'est sûr qu'on va s'y intéresser dans le futur.
Si vous voulez en savoir plus sur le hockey féminin, écoutez le podcast Sans restriction de Kevin Raphaël. Il reçoit beaucoup de femmes et c'est super intéressant.
Il y a aussi un podcast de femmes, j'ai oublié le nom pour vrai, mais.
Femmes d'hockey?
Ouais, c'est ça. Il y a un podcast comme ça, puis je pense que c'est
Isabelle Étier.
Ouais, c'est ça.
Un être adorable.
Ouais.
C'est vraiment.
Ouais, c'est ça. Ben oui, écoute, c'est sûr. Puis le Canadien, c'est sûr, ça va être dans nos sujets pour répondre à. Lolo Hudon, les Olympiques, on va en parler, la Ligue nationale, c'est sûr. Au fur et à mesure, on va aussi parler des autres sports. Je sais que toi, Gab, t'aimes beaucoup le soccer. Je sais que t'es pas le plus grand fan de football, mais peut-être dans le futur, on va peut-être un peu plus parler de football.
C'est quand même ironique quand on y parle.
J'ai un compte d'Anthony Calvillo.
Oui, mais justement, si on peut faire une petite transition par rapport à ça, Anthony Calvillo qui va revenir comme entraîneur des corps arrière avec les Alouettes de Montréal, ça a été annoncé aujourd'hui.
Mais je trouve ça le fun. à comparer aux Canadiens qui s'associent zéro aux anciens, au moins les
anciens. Ouais, mais c'est ça. Mais écoute, c'est ça. Il y en a beaucoup qui parlent comme quoi les anciens ont été mis de côté. Mais ça va être le rôle de Chantal de ramener cette connexion-là avec les partisans, les médias et les anciens, la fondation, le Rocket, puis tout. Puis moi, je suis 100% sûr qu'elle va réussir avec brio. Donc, on ne va pas juste se focaliser sur le hockey, mais pour le moment, c'est plus notre champ d'expertise. Donc, on va mettre ça plus à l'avant, mais le hockey féminin puis les autres sports, 100% qu'on va, au fur et à mesure que le podcast va avancer, on va en parler.
Ça, c'est et toi, Marco, ouais. Il veut qu'on parle du trade de Suzuki. Qu'est-ce qu'on en pense?
Écoute, on en parlait il y a genre même pas 2-3 heures de ce trade-là. Écoute, c'est vraiment... Il n'y a pas une meilleure façon de parler de ce trade-là que par un vol. Un vol qualifié.
Un vol qualifié, mais on a été chanceux que...
Oui. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, de base, le Canadien voulait échanger Max Pacioretty. Ça, je me souviens, à l'époque, il y avait eu des rumeurs comme quoi la transaction était avortée. Il voulait être échangé chez les Kings de Los Angeles, mais il y a eu des rumeurs comme quoi les Kings, finalement, n'étaient pas prêts à donner le retour... que le Canadien voulait et que Max Pacioretty ne voulait pas une prolongation de contrat parce que oui, s'il devait se faire échanger, il voulait signer une prolongation avec sa nouvelle équipe. Le retour à l'époque, c'était Gabriel Vilardi, un choix au repêchage et Tyler Toffoli. Puis on voit que
Tyler Toffoli, on l'a eu gratuit.
Donc tu vois que Marc Bergevin a attendu le bon moment pour signer Tyler Toffoli, il a gardé son intérêt et tout. Puis c'est ça, mais écoute...
Puis pas seulement celle avec les Kings, celle avec Vegas aussi au début, le Canadien visait Cody Glass.
Écoute, puis je veux pas être méchant envers Cody Glass, mais c'est pas non plus...
Ça débouche pas.
Oui, c'est ça, c'est un peu comme Nolan Patrick, qui fait partie de sa transaction à trois équipes, là, avec les Predators, les Flyers, puis Golden Knights. Nolan Patrick, c'est vraiment les blessures qui l'ont affecté. Puis c'est ça, je trouve que vraiment c'est un vol qualifié. Suzuki, ça va être, je pense vraiment, si c'est pas Gallagher, c'est Suzuki notre prochain capitaine, je pense d'ici 2 ans peut-être. Puis Thomas Tatar, il nous a rendu de fiers services. C'est vrai que ça a été un peu, je pense, un peu plate qu'il n'ait pas pu jouer en série vers la fin alors qu'on manquait un petit peu de punch avec le Lightning, même si fallait être un peu plus défensif avec le Lightning, puis Thomas Tatar, c'est pas son fort. Écoute, le choix aussi au repêchage nous a rapporté Mathias Norlinder. Puis Mathias Norlinder...
Mathias...
En
powerplay, il va faire des dommages, ce gars-là. Il est extrêmement mobile. Il est capable de faire des passes précises.
C'est un gars comme André Markov, tu penses?
Un peu, mais... Un gabarit un peu moins gros, évidemment. Ouais. Il est très petit, Mathias, pour un défenseur. Mais selon moi, il va faire des dommages en relance et en power play.
Ouais, écoute, mais je suis totalement d'accord. Moi, je ne l'ai pas trop vu, mais toi, tu as pu me voir à l'œuvre en plus en live. Écoute, du côté de Norlinder, je trouve ça un peu plate, honnêtement. Je ne sais pas ce que tu en penses qu'il soit retourné en Suède. Parce qu'apparemment, il y aurait eu le mal de pays et tout. Écoute, je trouve que c'est un peu plate qu'il retarde ce fait-là. Parce que oui, il a goûté au bain de la Ligue nationale puis du hockey nord-américain, mais...
Oui, il va jouer contre des adultes, mais ça va pas être du hockey nord-américain.
Oui, mais c'est ça. Mais écoute, je pense que... Puis apparemment, en plus, que finalement, il y avait une clause pour jouer avec le Rocket. Il pouvait finalement rester avec le Rocket, alors que de base, il ne pouvait pas à cause de son contrat. C'était soit Montréal ou Suède. Mais ils avaient trouvé finalement une échappatoire. Mais finalement, non, apparemment, ça n'a pas eu les résultats escomptés. Donc, il retarde un peu son arrivée. On espère que l'an prochain, il va rester. Parce que, tu sais, moi, j'aime bien faire ce parallèle. Un gars comme Romanov, tu sais, on s'entend, il a pas dit « je veux retourner en Russie » parce que des fois, on le laissait de côté.
Non, il voulait absolument jouer avec le CH.
Ça, tu le vois, même, c'est une boule d'énergie. C'est un gars un peu comme... C'est un mélange un peu de boule d'énergie comme Piqué Subban qui, à l'époque, était très, très, très... Tu voyais dans l'hymne national tout en train de bouger, puis tu le vois un peu ça du côté de Romanov. Puis En termes de hit, c'est comme un peu Yemelin, mais avec plus de talent. Donc,
comment parler de Romanov sans passer par Yemelin? C'est impossible.
C'est ça, un train. Les deux, c'est des Russes. Les deux, c'est des Russes, mais les deux, c'est des gauchers. Les deux, c'est des défenseurs.
C'est des trains. On va pas arriver, bang! Oh là là!
Écoute, même l'autre fois, il a pogné Ryan Pelling pendant qu'il faisait son hit. Écoute, pour te dire à quel point ce gars-là, il va faire mal dans le futur, tu voudras pas...
Pas que dans le futur, dans le présent aussi, il fait
oui,
très
oui,
mal.
Oui, c'est sûr, il faut que tu ailles la tête haute, tu sais. On disait tantôt pour Jake Evans, garde pas ta tête dans le jackstrap, là, mettons. Mais c'est ça que les autres joueurs doivent...
Ici, on a Marc-Antoine Matt qui nous demande quel a été le meilleur coup de Marc Bergevin.
Écoute, moi, j'en ai vraiment deux en tête. Trois. Puis je pense que c'est les trois qui vont faire l'unanimité. Premièrement, la transaction pour Philippe Dano. Philippe Dano qui nous compte deux gars qui aujourd'hui sont, ne sont plus dans le milieu du hockey, autre que, mettons, Dale Weiss, qui va être capitaine pour l'équipe nationale canadienne. Ça nous a rapporté Philippe Dano et un choix de 2018, de deuxième tour, qui nous a donné Alexander Romanov. Écoute, on était à ce moment-là en 2016, donc le repêchage 2018, c'était encore loin. Mais finalement, on a eu la main heureuse, on a pu avoir Alexander Romanov. Ça a été un très, très bon coup. Mon deuxième, c'est vraiment, je pense, Weber contre Subban. Écoute, Weber, à l'époque, ça va peut-être étonner certains, mais je ne le connaissais pas trop parce que je ne suivais pas trop Nashville. Nashville, c'est vraiment à partir de 2014-2015 qu'ils ont vraiment commencé à avoir un engouement vraiment remarqué. C'est là que j'ai commencé à vraiment les voir un peu plus. Avec les Weber, Roman Yossi, puis à l'époque, il y avait aussi les débuts de Philip Forsberg, il y avait aussi Mike Ribeiro. Puis Weber, c'est vraiment, je pense, il n'y a aucun doute, c'est nous qui avons gagné la transaction, parce qu'on voit aujourd'hui Subban, il n'est même plus avec les Prédateurs, puis c'est la dingragolade, puis on peut dire la même chose pour Weber, mais Weber, s'il pouvait, il jouerait.
Ben, pour moi, les meilleurs...
J'en ai oublié un, puis le meilleur, c'est Nick Suzuki. Là. Je pense que c'est vraiment le meilleur. C'est ça mon top 3. Puis toi, c'est quoi?
La meilleure transaction de Marc, ça reste Nick Suzuki, c'est sûr. Ouais. Mais la deuxième, j'aimerais parler de chez Weber. Non seulement il amène du leadership dans la chambre, mais sur la patinoire, c'est un exemple à suivre. Il frappe, il est toujours intense, il est capable de faire une belle relance, il est bon en powerplay. Comment passer à côté de chez Weber?
Ouais, mais c'est sûr. Écoute, tu vois aujourd'hui que ça fait très, très mal son départ, entre guillemets. Il a déjà fait des petites apparitions surprises, comme lors du voyage à Seattle. Mais tu vois que sa présence physique, sa prestance, ça fait vraiment mal. Il y a beaucoup de monde qui ne sont plus là. Corey Perry... Philippe Dano, Yoel Edmundson qui est blessé mais qui aussi qui a la COVID ou qui a été en contact. Il reste Jake Allen, mais Jake Allen n'a aucune relance à l'attaque, il n'a aucune présence défensivement. C'est très difficile son travail et il manque beaucoup de leadership cette année du côté du Canadien malheureusement.
Édouard Marcoux qui nous dit: ben, Romanov a eu un début de saison dégueulasse, ça, on ne peut pas se le cacher. Là.
Non, c'est vrai.
Romanov a eu un début de saison extrêmement désastreux.
Ouais, non, écoute, puis en série aussi, écoute, on ne voulait pas trop l'utiliser à cause de sa fin de saison. Il y en a beaucoup qui criaient au mur comme quoi c'est un manque de respect envers lui, écoute. Mais pour vrai, Romanov, à l'époque, lui et Keke, ils étaient vraiment perdus sur la glace. Heureusement, Keke est venu puis ça a cliqué.
Quand on parle de mauvais développement chez les Canadiens, c'est des exemples. Keke, qu'est-ce qu'on a fait avec Keke? On ne l'a pas envoyé en Finlande, il fallait qu'il joue absolument dans la Ligue nationale.
Ouais, mais ça, c'est vraiment très épineux comme sujet. Parce que c'est vrai que, parce que Marc Bergevin, il a dit, quand il a dit je refuse d'égaliser, il a dit j'ai vu des aspects de son jeu que. Qui n'allait pas être changé, même si s'il avait été en Finlande. Donc, ça veut dire qu'il voyait des choses qui allaient rester une généralité dans le cas de Keke. Je te donne un exemple, Drouin, il va rester pas mal toute sa carrière un joueur qui ne va pas faire tout le temps le deuxième effort. Mike Hoffman aussi. Mais je ne pourrais pas dire pour Keke c'est quoi que Marc Bergevin parlait. Mais à l'époque, On s'entend, le seul vrai centre qu'il y avait, c'est Philippe Dano. Puis à ce moment-là, il n'avait pas encore été testé au centre du premier trio. L'année d'avant, il avait été blessé, on se souvient, avec le tir de Chara dans la tête. Ça fait un peu penser à ce que Drouin a eu contre les Red Wings, tu sais. Mais il jouait surtout sur le quatrième trio, Philippe Dano.
Ouais, mais
c'est ça. Puis, donc, on
le
avait
manque pas... de talent dans la Ligue nationale ne doit pas empiéter sur les choix de repêchage, sur leur développement.
C'est
pas
sûr.
Parce que tu manques de gars dans la Ligue nationale que tu dois mettre absolument tes jeunes tout de suite. Il faut que tu les développes avant de les mettre dans la Ligue nationale. La Ligue nationale n'est pas une ligue de développement.
Ouais, écoute, puis on s'entend que KK n'aurait pas dû être pris troisième. Je pense que ceux qui voulaient Brady Ketchup ou moi à l'époque, personnellement, je voulais Philippe Zadina. Je le trouvais vraiment impressionnant. Il y avait des beaux flashs offensifs. Puis en plus, il avait joué dans la même équipe que Nico Hischier. Mais finalement, on n'a pas eu la main heureuse. Puis je pense que.
Même si on avait pris Zadina, on n'aurait pas eu plus
la main heureuse. Non, c'est ça. Mais non, je veux dire, dans le sens qu'on aurait. Je pense qu'aujourd'hui, on prendrait tous Brady Ketchup. Là. Écoute, c'est indéniable. Ouais. Mais dans le cas de Kéké, je pense aussi que c'est parce qu'il a bien impressionné au camp d'entraînement, parce que je ne peux pas croire que c'est juste par défaut. Je pense que c'est vraiment un tout qui a fait en sorte qu'il est resté à Montréal.
Ouais, mais après 2-3 matchs, je vois qu'il n'est pas dans son assiette.
Ouais, mais c'est sûr, mais
en même temps, je veux qu'il performe.
Tu sais, comme on dit, on a une fenêtre d'opportunité qui est 9 matchs, et après ça, tu as la première année qui est enlevée de ton contrat. Je pense que vraiment, Canadien, jusqu'au bout, voulait l'évaluer. Puis surtout parce que c'était un haut choix. Puis tu sais, veux pas, le fait qu'il a été choisi troisième a fait en sorte qu'on a voulu le tester jusqu'au bout. Mais écoute, ouais, c'est vrai. Mais comme il a dit Marc Bergevin, il sait des choses que nous, on ne sait pas. Il voit des aspects de son jeu qu'au final, ça allait rester une généralité pour Kéké, même s'il était venu deux ans plus tard.
Mais Kéké, je pouvais pas croire qu'il voyait son coup de patin puis il faisait mm-hmm. Ouais, on va laisser ça dans la Ligue nationale. Son coup de patin a toujours été un défaut, puis encore qu'il l'améliore, son coup de patin.
Ouais.
Il était petit à l'époque, là. Il y avait.
Ouais, tu veux dire, il n'avait pas de muscles.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Il manquait, mais c'est vrai. Puis on se souvient.
Il manquait de maturité dans son jeu en plus. Donc, je vois pas la décision du Canadien de la regarder dans son alignement.
Ouais, non, c'est vrai, mais encore une fois, ça démontre un peu le manque de. En ce qui a trait au développement chez le Canadien, et puis on se souvient, il a été envoyé à Laval en 2019-2020, vraiment tardivement. Puis n'eût été du fait qu'on a fait les séries par défaut, puis qu'on a vu des flashs en série 2020, je pense pas que, mettons, on lui aurait fait autant confiance en 2021, puis que... je veux dire, c'est...
On va y aller avec une dernière question. Je vais y aller avec celle de Don Marcoux parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Vorak, bonne ou mauvaise acquisition?
Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Je pense que c'est trop tôt parce que... Écoute, je pense que toi, tu as ton avis.
Ben... échanger le choix de première ronde des Hurricanes. Les Hurricanes n'auraient pas valu grand-chose. Donc...
Non, mais écoute, pour ceux qui ne le savent pas, là, moi, je vais un peu l'expliquer parce que je pense c'est vrai que c'est un peu nébuleux. C'est, dans le fond, c'est un choix de première ronde puis un choix de deuxième ronde en 2024. Puis le premier choix, c'est pour le prochain repêchage. Si c'est en dehors du top 10, c'est celui du Canadien qui est envoyé. Mais si c'est un choix top 10, c'est protégé. Puis ça va être celui des Hurricanes. Puis vu comment la saison est partie, ça risque d'être celui des Hurricanes qu'on va donner. Donc, Marc Bergevin, sur ce coup-là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'il a été très, très intelligent. Je ne sais pas s'il s'est dit « Ah, ça se peut qu'on ait une mauvaise saison ou quoi », mais honnêtement, s'il n'avait pas fait cette clause-là, on perdait notre choix au repêcheur. Puis on perdait un gars comme... Il y en a beaucoup qui disent « Pain for right » ou « Pain for shame ». On n'aurait pas pu... On n'aurait pas pu penser à ça parce que
mais,
il n'y aurait pas eu de clause.
Je trouve que c'est pas une mauvaise acquisition en tant que telle, c'est juste que tout le brouhaha que les médias ont fait sur lui en disant « Ah, c'est meilleur encore que Philippe Dano
»,
nous a fait une mauvaise surprise quand on l'a vu jouer parce que c'était clair que Philippe Dano et Vorak sont pas aussi bons défensivement sur cette mise au jeu. Puis du niveau dans tête de hockey, tu sais.
Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que Dvorak, il est plus offensif, puis on l'a vu surtout dans le junior, tu sais, il a fait partie d'une des meilleures équipes des dernières décennies, mais avec Matthew Tkachuk puis Mitch Marner, mais écoute, je trouve que Dvorak, c'est vrai qu'il y a plus un aspect offensif comparé à Philippe Dano, mais...
Oui, mais le comparer à Philippe Dano...
Non, mais c'est ça, mais honnêtement, je trouve que c'est ça. Des fois, les journalistes, ils en mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le client demande. On le voit, ils parlent souvent du départ de Dano, du départ de Perry, du départ de KK. On ne peut pas leur enlever ça. C'est ça qui fait des clics, et c'est ça qui fait des bons articles. Des fois, ça dépend de... Puis merci Édouard Marcoux pour ce commentaire.
Écoute, c'est vraiment fin.
Ouais, écoute, on est très content d'avoir ce genre de commentaire. Mais ouais, c'est ça. Il y en a qui aiment ça bien remettre le couteau dans la plaie. Aussi, sinon, l'échange Sergachev-Drouin, il y en a qui en parlent encore. C'est vrai que.
Puis ça, on a la mémoire longue à Montréal. Hein?
Hein?
On a la mémoire longue à Montréal.
Ouf. Écoute. Plus longue que ça, tu meurs, Gab.
Mais. T'sais, tout ça pour dire que Dvorak, ce n'est pas une mauvaise échange, c'est juste que les médias l'ont beaucoup trop vanté pour le joueur que c'était.
C'est ça, mais Dano, tu sais ce qu'il allait t'apporter, mais moi, je maintiens un peu ce que j'ai dit à l'époque. Je trouve que c'est beaucoup trop, 5,5 millions. Puis je pense que même si on l'avait gardé, on aurait la saison qu'on a aujourd'hui parce que ce n'est pas un Connor McDavid, ce n'est pas un... Anze Kopitar.
5,5 millions, c'est pas trop, selon moi, pour Philippe Dano.
C'est... Ouais, mais...
Tu donnes à Brendan Gallagher un contrat de 6,5.
C'est ça, ouais. Mais je sais pas si tu étais au courant, mais de base, en septembre 2020, le Canadien voulait, je crois, signer Dano en premier. Donc, c'est pour te dire à quel point c'était le dossier prioritaire. C'était avant Gallagher et Petrie. Puis justement, c'est parce que Dano a pas voulu accepter que malheureusement il est parti, puis c'est les autres qui ont obtenu le contrat, tu sais, les Toffoli et tout. Mais je suis encore de ceux qui trouvent que, tu sais, si t'aimes vraiment Montréal, peut-être tu aurais pu faire un petit effort, tu sais, je sais pas, mettre la poire en deux, 5,250 000.
Tu vois des gars comme Sidney Crosby le faire, ouais, pour rester à Pittsburgh.
Sidney Crosby, le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est Nathan MacKinnon. Nathan, je pense qu'il gagne 6,9. Ou 6,5.
Il était à 400 000 de Gallagher.
C'est ça. Écoute, puis encore une fois, Nathan MacKinnon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis prêt encore à être sous-payé parce que je veux que Joe Sakic y amène une bonne équipe avec l'Avalanche.
Ah, puis là, tu as Gab Landeskog qui fait, moi, je vaux vraiment cher. Pis,
Ouais, non, c'est lui...
Ça, c'est égocentrique en salle, là. C'est quoi
c'est
le contrat
que vraiment, c'est difficile à répondre parce que tout dépend du mindset du joueur. S'il trouve vraiment qu'il a été trop sous-payé pendant longtemps, ce que je pense que Dano a ressenti, puis c'est pour ça qu'il n'a pas voulu signer à Montréal, c'est... Tu ne peux pas lui en vouloir, mais c'est vrai, Gabriel Landeskog, il méritait de rester, mais peut-être pas autant cher, écoute.
Non, il est resté beaucoup... Ils l'ont signé à beaucoup trop cher, selon moi, parce que ton masterpiece dans l'équipe, c'est pas Gabe Landeskog, c'est Nathan MacKinnon.
Ben oui, c'est ça, puis Kyle MacKinnon.
C'est... Merci à Marc-Antoine qui nous dit 9 millions. 9 millions, c'est cher pour Gabe Landeskog.
Écoute, c'est... Je sais pas toi, mais je prends Nathan MacKinnon à 6 points.
Ah oh non, je prends Nathan MacKinnon à 9 millions et Kyle MacKinnon à 9 millions avant.
Techniquement, je suis prêt à dire que Nathan MacKinnon il mérite au moins 10 ou 11 millions. Je suis pas gêné de le dire.
Oui, mais si tu fais ça, tu gardes pas Makar. Tu gardes
non,
pas...
c'est ça. Mais écoute, puis regarde, puis vraiment, c'est, je pense que ça leur a fait mal. Ils avaient trois dossiers à régler. Finalement, ils en ont réglé deux, puis ils ont perdu Philippe Grubauer. Je pense que Makar aussi, c'était, je pense, indéniable qu'il devait rester.
J'ai complètement oublié Rantanen.
Oui, mais
vrai.
Il court Rantanen.
Merci, Marc-Antoine.
Écoute, t'es vraiment à l'affût de tout, Marc-Antoine. C'est vraiment appréciable de nous aider. Des fois, comme tout le monde, on est humain, on a des pertes de mémoire.
Complètement oublié Mikko Rantanen.
Ben oui, mais écoute, c'est un jeune joueur, puis je pense que Mikko Rantanen aussi, c'est quel duo incroyable aussi, hein, ces deux-là. Puis même avec Gabriel Landeskog, je pense que c'est un des très bons trios dans la Ligue nationale, honnêtement. Là.
Ouais, mais le contrat me reste un peu sur le cœur de sa part de
prendre... Si Marc-Antoine, il a l'info, ou si quelqu'un d'autre a l'info, ça serait bien de savoir c'est quoi déjà le contrat de Mikko Rantanen. Parce que pour vrai, j'ai vraiment un blanc de mémoire. Puis si vous voulez mon avis là-dessus ou celui de Gabriel.
Quel est à combien?
Je pense qu'il est à 9 ou 9,5 millions.
Ah, mais c'est un contrat d'après moi, Cale Makar.
Donc, Cale Makar, je pense que c'est celui qui. C'était indéniable, tu devais lui donner ça. T'étais obligé.
C'est...
Je pense que le choix s'est fait entre le capitaine ou le goaler.
C'est le défenseur le plus mobile que j'ai jamais vu.
8,5 pour Cale. Wow.
8,5.
C'est le même que Crosby. C'est le même que Crosby.
C'est pour moi. Cale Makar, c'est le défenseur le plus mobile et le meilleur offensivement que j'ai vu de ma vie. Un coup de patin d'avant, ça n'a pas de sens.
Écoute, puis juste il n'y a pas si longtemps, le but en prolongation contre les Blackhawks puis Marc-André Fleury, écoute, c'est juste incroyable à quel point il a battu de vitesse Kirby Dash, puis après ça, il s'est frayé un chemin pour avoir un gros espace alors que de base, il y avait pas beaucoup d'espace. Il a couché Marc-André Fleury, puis écoute, c'est spectaculaire. Puis Marc-Antoine Matt qui nous dit 9,25 millions pour Rantanen.
C'est pas normal que McKinnon soit le gars le moins payé de ce line-là.
Ben, écoute, non, c'est vrai, mais c'est un choix personnel de Nathan McKinnon. Nathan, on le sait, il mérite dans les deux chiffres. Ça, c'est indéniable. Mais c'est lui, c'est son choix personnel. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, mais il va payer un jour. Si c'est pas Colorado, ça va être quelqu'un d'autre.
Hey, Cale Makar a seulement 23 ans. Il y a encore 23. Du bon hockey dans le
masse. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il a été repêché quatrième au total. Puis de base, l'Avalanche devait repêcher premier.
Mais ça je pense à cause de son parcours un peu particulier qui a passé par la Ligue Junior A.
OK.
Je pense que c'est pour ça qu'il a été plus loin dans le repêchage.
Ah, ça se peut, mais écoute, on savait déjà d'office que ça allait jouer à l'époque entre Nolan Patrick ou Nico Hischier. Pas parce que c'était les plus talentueux. Par exemple, comme on disait tantôt pour Connor Bedard ou Matiev Michkov, puis Connor McDavid et Jack Eichel, mais c'est vraiment, tu savais pas trop ça allait être qui parce que il y avait pas vraiment.
Il y avait un petit parcours.
Ouais, c'est ça. Il y avait comme. Il y avait du monde qui disait ça. Il y avait du monde qui disait ça va être Nico. Il y en a qui disaient ça va être Nolan. Mais finalement, c'est vraiment le choix numéro 3 et 4 qui se font écarquiller les yeux. Je parle de Miro Heiskanen et Cale Makar, deux défenseurs.
Miro, on entend moins parler à cause de la fiche désastreuse des Stars of Dallas.
C'est ça, ouais, c'est ça. Puis on s'entend Dallas non plus, c'est pas non plus l'équipe la plus.
C'est pas marché d'entrée.
Ouais, c'est ça. C'est pas non plus la meilleure place pour aller jouer au hockey.
T'sais, t'as un gars comme Jason Robertson qui a aucune visibilité en ce moment parce qu'il joue à.
Ouais, c'est ça. Puis des gars comme il y a aussi Tyler Seguin, Jamie Benn qui a un peu baissé. T'as aussi John Klimberg qui il y a des rumeurs d'échange dans son cas. Écoute.
Mais en tout cas, faut en garder pour le prochain épisode. J'aimerais remercier tout le monde qui était à l'écoute ce soir. C'est adorable, c'est vraiment gentil de votre part. Merci à Mick, à la technique,
ouais,
qui nous envoyait des informations, des vidéos. Tu étais vraiment sharp à ce soir, toi avec Younes.
Yes.
Merci beaucoup.
Yes.
Et bonne soirée.
Yes, bonne soirée à tous.